Bien, encore une fois, merci à vous, hein, au Salon du Livre, d'être là. On sait que vous êtes plus qu'occupé. Vous êtes enfin, moi, je vous vois partout, hein, sur toutes les télévisions, je vous dis dans tous les journaux. Non, pas. Non, mais du coup, c'est impressionnant de vous voir en vrai.
Moi aussi.
Non, mais on vient de discuter. Il parlait avec le président Macron il y a 10 jours. Ouais. Bon, quand même, tout le monde ne parle pas avec le président Macron au même rythme que vous. Alors, bon, vous avez bien compris, hein, les masques, vous arrêtez de les toucher d'abord. Hein? Non, mais là, vous êtes obligé. Hein. Et puis.
Pas le choix.
Pas le choix.
Je compte.
Et puis, il y a du gel hydroalcoolique. Alors, je ne vous présente pas. Ça, c'est l'avantage avec professeur Peter, on vous présente plus. Deux mots sur votre livre avant que vous nous en disiez plus vous. C'est un carnet de bord. Hein? Est-ce qu'on peut dire que c'est le carnet de bord de la première vague?
Oui.
Ouais. Hein? Maintenant, on sait que c'est le carnet de bord de la première vague. Il y a un co-auteur pour ce livre. On parle tout le temps de vous. Hein? Mais il y a un co-auteur, c'est Thierry Crouzet. Alors peut-être pour commencer, pourquoi ce livre avec Thierry Crouzet et pourquoi lui?
Alors c'est très très simple. D'abord, ça n'est même, je dirais pas que c'est un co-auteur, je dirais que c'est vraiment l'auteur. En fait, ce livre, on le lui doit entièrement. Moi, je n'ai rien fait. La seule chose que j'ai faite, c'est évidemment de relire le texte extrêmement attentivement, d'enlever des choses qui ne me paraissaient pas devoir être dites de cette façon-ci ou de cette façon-là. Alors maintenant, pourquoi Thierry Crouzet? Thierry Crouzet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a été formé comme informaticien. Ensuite, il a commencé à écrire des livres sur comment utiliser les ordinateurs. Ensuite, il est devenu de plus en plus écrivain. Et il a été journaliste scientifique. Et c'est pour ça que le livre a toute une série de références. Tout ce qui est dit est référencé avec des références de la littérature scientifique, du moment, de la littérature de la grande presse. Et donc c'est cette espèce d'approche qui est très propre à Thierry Crouzet. Alors Thierry, je l'ai rencontré en 2010, en 2011, où en fait Geneviève Morand, ex-travaillant à la radio-télévision suisse romande, me dit « il faut que tu racontes un peu cette histoire de la solution hydroalcoolique ». Je sais, et puis je lui dis, ben moi j'ai aucune idée, je ne sais pas comment écrire, je ne suis pas écrivain. Elle m'a dit, je connais quelqu'un qui le ferait magnifiquement bien. J'ai rencontré Thierry à ce moment-là. Et Thierry a passé 2 ans à écrire le livre qui s'appelle Le geste qui sauve, qui est un livre qui raconte l'histoire finalement de la solution hydroalcoolique, un tout petit peu de pourquoi, comment, etc. Et ce livre, on l'a publié, il a été publié avec Thierry, c'est Thierry qui a écrit ce livre. Il a été publié en 2014. Il a été donné par Thierry, parce que Thierry m'a dit, toi tu as donné la solution hydroalcoolique, moi je donne le livre. Et il m'a dit, tu sais pas ce que tu as fait, mais ce que tu as fait c'est ce qu'on appelle de l'économie de paix. Et j'ai découvert ce qu'était l'économie de paix par Thierry. Et puis ensuite, on est devenus vraiment très amis. Il a mis 2 ans pour écrire ce livre, il a donné ce livre. Ensuite, il m'a accompagné dans différentes missions à travers le monde, pour l'Organisation Mondiale de la Santé, pour la prévention du risque infectieux. Et en fait, Thierry est en train d'écrire la suite du geste qui sauve, c'est-à-dire le tome 2 du livre, et il l'avait pratiquement terminé. Et il est venu, première semaine du mois de février, c'est d'ailleurs raconté dans le livre « Vaincre les épidémies », il est venu à Genève, et tout était prévu. En général, quand il vient à Genève, j'essaie de libérer au maximum mon agenda. Tout était prévu pour qu'on travaille ensemble cette semaine-là à Genève. Alors en général, il vient, il dort à la maison, il prend même de temps en temps son vélo parce que c'est un grand cycliste, voilà. Et puis, on travaille ensemble. Et puis cette semaine-là, on a été dérangés, alors qu'on travaillait lui et moi, à peu près toutes les 15 minutes en moyenne. Quelqu'un qui rentrait, d'ailleurs une partie est rentrée dans le livre, c'était la semaine où tout d'un coup on se posait la question du vol Air China, est-ce qu'il faut l'arrêter ou pas. Déjà il y avait beaucoup de discussions et on est à la fin, toute fin du mois de janvier, tout début du mois de février. Et Thierry est là dans mon bureau, on essaie d'avancer sur le tome 2 du geste qui sauve, qui s'appelle d'ailleurs Adapt to Adopt, qui du coup a été bien ralenti, comme vous le savez, au mois de juillet. Et je l'ai lu très attentivement plusieurs fois, rediscuté un peu avec Thierry, et voilà, c'était fait. Il a fait vraiment un exploit extraordinaire. Il a aussi repris mon agenda page par page,
pour séquencer exactement ce qui se passait au jour le jour. Et c'est pour ça que c'est un vrai journal, au fond.
Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce livre, c'est que c'est effectivement un vrai journal. Il y a à la fois l'histoire de la première vague, enfin, ce qu'on peut appeler aujourd'hui la première vague, c'est vraiment jour après jour, ben, comment vous, qui contrairement à nous profanes, vous avez peut-être un temps au moins d'avance sur ce qui se passe, puis en même temps, ben, vous parlez aussi de vous. C'est-à-dire qu'il y a un mélange, je retrouve moi ce qui s'est passé avec la Covid, ou vous dites le ou la Covid, vous
faites comme vous voulez. La Covid, c'est l'Académie française qui a voulu la Covid, mais on ne dit pas la rhume, on ne dit pas la appendicite non plus, donc je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'Académie française sur ce point-là.
D'accord. Alors, moi, j'aime bien que le
donc,
fait.
Vous dites Covid ou.
J'ai dit Covid. Donc, on voit à peu près ce qui est passé. Puis, on vous voit vivre, vous, spécialiste, avec ça. Donc, première question, comment vous avez mixé. Il y a de l'intime, je veux dire, il y a vos relations avec vos enfants, il y a vos relations familiales. Comment vous mixez ça avec la pandémie mondiale?
Alors là, c'est Thierry aussi. C'est-à-dire que Thierry m'a dit, écoute, c'est vraiment la vraie vie là, que je suis en train de vivre avec toi. Et alors, je vais y ajouter les choses qui sont les choses de ta vie. Et je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, pas de problème. Et ensuite, je l'ai relu. Et puis, effectivement, j'ai trouvé que ça avait un sens de finalement de ne rien cacher de ce qui se passait, puisque c'est vrai que ça a passablement changé nos existences et finalement que la famille est là et que enfin, elle vit à côté de nous, elle subit beaucoup de finalement de notre vie de tous les jours. On avait des enfants confinés pour quelqu'un qui est jamais confiné et qui n'arrête jamais, donc ça donne un contraste assez particulier. Il y a une de mes filles qui se marie et qui, dont le mariage était très programmé, le mariage a été momentanément annulé, puis finalement il a quand même lieu, donc voilà, c'est vrai que ça a beaucoup occupé, il y a mes garçons qui se marient aussi, et qui, voilà, il arrive des tas de choses qui arrivent, même si on est en période de confinement, et c'est des choses qui sont importantes pour moi, et je crois que Thierry a eu tout à fait raison de me proposer de les inclure dans ce texte.
En tout cas, ça a une vertu, c'est de montrer que les scientifiques, vous êtes un scientifique, ben, finalement, vivent ce Covid en partie aussi comme nous, parler du mariage de vos enfants. Et puis sur ce côté des scientifiques, parce que moi j'aime beaucoup ce livre parce qu'il a un peu, entre guillemets, démystifié les scientifiques. Vous savez qu'il s'est passé pour nous une chose assez éprouvante, c'est-à-dire qu'on a vu des scientifiques se contredire. On a vu des scientifiques sur les plateaux de télévision, l'un dire blanc, l'autre dire noir, alors qu'on avait jusqu'à présent l'habitude d'écouter et d'entendre la parole scientifique en disant, si mon docteur me dit, monsieur Varigeno, vous prenez des médicaments contre le cholestérol, je ne vais pas le remettre en question, je vais le prendre. Là, tout à coup, et c'est vraiment, je vous jure, c'est vertigineux pour nous, on se rend compte qu'il n'y a pas de vérité scientifique, entre guillemets. Hein. Comment vous vivez ça? Comment vous ressentez ça par rapport aux gens que vous croisez?
Alors, ce qui est clair, c'est que en tant que scientifique, on a l'habitude, en fait. Ça ne se sait pas, mais on a l'habitude. On se nourrit même de ce partage d'opinions. On s'en nourrit parce qu'en fait, c'est aussi beaucoup comme ça qu'on progresse. Parce que si on reste dans l'habitude et puis qu'on est toujours persuadé d'être dans le juste, on ne se remet jamais en question. Et c'est le propre de la science, que ce soit la science de laboratoire ou la science clinique, que de se faire remettre en question, d'aimer se remettre en question. Et au fond, ça fait partie de nos habitudes. On a l'habitude de ça. Par contre, ce dont on n'a pas l'habitude, c'est qu'évidemment, ce soit exposé au grand jour. Alors, ce n'est pas qu'on soit dérangé que ça le soit, mais par contre, on sent bien que parfois, c'est évidemment une erreur. Parce qu'on aimerait mieux que les choses soient expliquées. On n'a jamais assez de temps pour expliquer. On n'a même jamais assez de temps pour s'expliquer entre scientifiques, surtout pas en ce moment. Et donc, des fois, on se dit, c'est dommage, ça ne devrait pas se terminer comme ça. Alors, en Suisse, c'est encore assez modéré. Maintenant que je travaille passablement avec les Français, je peux vous dire que c'est une autre puissance. Parce que, voilà. Alors, bien, on vit aussi une période un peu particulière que l'Organisation mondiale de la santé a appelée infodémie, c'est-à-dire épidémie d'information. Et quand il y a tellement d'informations, il y a forcément des informations qui sont fausses, qui sont inexactes, qui sont même parfois mensongères, pour différentes raisons. Alors ça, on le vit déjà depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'il y a un business aussi de la science. Il y a des journaux scientifiques qui pour vivre doivent publier. Vous devez parfois payer, alors que les grands journaux scientifiques ne vous payaient pas pour y publier. Donc du coup, il y a une espèce de commerce. Et pendant cette période Covid, vraiment, on a vu une effervescence de publications scientifiques dont beaucoup n'ont absolument aucune valeur et vont rester dans les caves encore pendant des années, on n'en parlera plus. Et on a dû finalement aussi réagir à ça. Donc entre les publications, dont vous avez vu, certaines publications ont été retirées d'ailleurs. On parle beaucoup de celles qui ont été retirées du Lancet, mais il y en a des dizaines, voire des centaines qui ont été retirées d'autres journaux, évidemment beaucoup plus modestes, donc on s'y intéresse beaucoup moins. Et donc on a vécu cette infodémie. Et puis si vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est encore bien pire. Et puis de l'infodémie, on passe assez rapidement au complotisme. Et donc voilà, on a été au jour le jour, et on l'est toujours, confronté avec cette situation. Alors, pour répondre à votre question, oui, parfois c'est très bien qu'il y ait du débat. Mais je pense qu'il faut arriver à la fin d'un débat à essayer d'expliciter les choses pour que ce soit compris. Parce que tout le monde n'a pas les moyens. Et d'ailleurs, beaucoup de scientifiques n'ont même pas les moyens de discuter certains domaines. C'est sûr. Ce qui s'est passé, c'est que, et notamment en France, pour en parler rapidement, il y a par exemple tellement de chaînes d'information en continu que toutes ces chaînes ont besoin d'experts et que, évidemment, comme l'a dit très bien Pierre-Yves Maillard, il a dit que vous connaissez tous, qui était donc ancien ministre de la Santé, donc Dieu sait s'il connaît la santé, il a dit « c'est fou, je vois une épidémie d'épidémiologistes. J'en ai jamais vu autant, il en sort de partout ». Il avait raison. Et c'est un métier que finalement dont personne connaissait le nom pratiquement avant cette crise Covid, alors qu'évidemment certains d'entre nous ont fait cette formation particulière d'épidémiologie. Voilà. Et donc, oui, ce besoin d'information, on l'a ressenti. On savait qu'il fallait faire de la bonne information. D'ailleurs, on a été très 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 bien aidé par les médias. C'est toujours le cas aujourd'hui. Mais effectivement, parfois, c'est compliqué de mettre le débat scientifique de la juste façon au devant du grand public.
Oui, il y a une question qui m'a... Je me souviens de 2017. 2017, il y a une épidémie de grippe, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On retrouve des interviews de vous à l'époque qui déjà nous expliquaient qu'il faut se laver les mains. C'est une des polémiques qu'il y a aujourd'hui. C'est est-ce que cette pandémie-là est une grosse crise de grippe ou pas? Et en ce sens, est-ce que l'action des médias, qui dès le début de la pandémie en font quelque chose de très prenant, de très presque anxiogène, est-ce que ça a une influence sur la manière dont on la vit? Ou est-ce que de toute façon, ça n'a vraiment rien à voir avec 2017, avec la grippe de 2017?
Alors, pour répondre à votre question, oui, bien entendu, que le fait que les médias soient très intéressés, et certainement le public avec les médias, puisque les médias continuent à informer le public, change certaines notions et certaines visions qu'on peut avoir de la pandémie, c'est très clair. Ceci dit, dans le cadre de la mission que nous faisons pour Emmanuel Macron, qui est une mission qui consiste à évaluer la gestion de crise par la France, mais en la comparant avec l'étranger et les pays étrangers, donc c'est ce qu'on fait. On a notamment revu les questions de mortalité liée au Covid, mortalité excédentaire, et on a fait des analyses qui comptent justement sur les épidémies de grippe. Vous savez que chaque année, en fait, la mortalité fait comme ceci. Quand il y a l'épidémie de grippe, il y a un surplus de mortalité, et au fond, ça, on le connaît bien. Et ce qu'on a fait pour cette mission, c'est d'analyser le surplus de mortalité de Covid, qui est très important, il faut bien le dire, mais en le corrigeant pour les années qui précèdent et pour la grippe. Et on voit que malgré tout ça, il y a quand même une surmortalité qui est certaine. Donc à la question, y a-t-il une surmortalité? Est-ce que c'est une super grippe? La réponse c'est oui, ça n'est pas du tout une grippe habituelle. Le taux de mortalité aujourd'hui, il est probablement de l'ordre de 0,3%, c'est-à-dire 3 pour 1000. Celui de la grippe, quand c'est une mauvaise année de grippe, sera de 0,1, c'est-à-dire qu'il soit 30 fois inférieur. D'accord ? Donc ça veut dire que quand même, on vit un véritable fléau quand même, il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir peur des mots non plus. qui emporte du monde, alors qui emporte certainement des personnes âgées, on le sait bien, mais qui emporte aussi des personnes jeunes. Hein, on voit des jeunes qui sont en réanimation et qui malheureusement ont des séquelles graves de la maladie, voire peuvent en mourir. En plus de ça, on n'a pas encore évalué, on est en train de le faire, dans le cadre de cette mission aussi, mais dans le cadre d'autres travaux, tout l'impact économique, ça vous l'imaginez bien, tout l'impact social, et puis aussi tout l'impact sur la santé, puisqu'il y aura des effets secondaires. On sait qu'il y a des gens qui ont des Covid tardifs, qui sont encore mal 6 mois après. Hein, pour l'instant, on a un recul maximal de 6 mois. Et puis, on a aussi des gens qui, malheureusement, n'auront pas été peut-être traités aussi bien qu'ils l'auraient été si Covid n'était pas passé. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une affaire sérieuse. C'est vraiment une affaire qu'aucun d'entre nous n'avait vue. Même quand on est allé en Afrique voir Ebola, on a vu des drames, alors c'est absolu. Mais évidemment, c'était localisé. On a vu des gens qui mouraient à 80%, alors que là, on parle d'une mortalité bien plus faible. Mais disons, on n'a jamais été exposé avec autant de malades, aussi graves ou aussi malades en même temps. Et ça pose des problèmes que vous savez.
Alors, j'aime beaucoup hein, votre façon d'aborder les choses, parce que vous faites un effort pour nous parler à nous. Enfin, je dis, on sent que vous êtes dans la vie. Il y a eu une confrontation qui m'a beaucoup intéressé au dernier infrarouge. Vous y étiez en visioconférence,
si depuis, Paris, oui.
depuis Paris. Et sur le plateau, il y avait votre collègue Pugin, des HUG aussi. Et puis, il y avait Suzette Sandeau, une ancienne politicienne vaudoise. Et le docteur Pugin lui dit, mais attention, on ne sait pas encore quelles seront les conséquences de ce Covid sur le long terme. Alors, on sait la grippe, on voit à peu près. Là, ce Covid peint. Et Mme Sandeau lui a fait le reproche de créer la panique, de créer l'angoisse. Donc, j'imagine que vous êtes attentif à ça, au fait que ce que vous dites va être reçu et peut-être surinterprété, et qu'on pourrait créer une panique.
Alors oui, on essaye justement d'être rassurant le plus possible, mais il faut aussi être très honnête et transparent. Ça serait faux de dire « ça n'est qu'une grippette ». Non, ça n'est pas qu'une grippette du tout. Et ça serait faux de dire « ben voilà, vous allez faire la maladie, puis ensuite tout ira bien ». La plupart du temps, oui, bien entendu. Il faut bien savoir que sur le nombre de personnes qui, au fond, attrapent cette maladie Covid, la proportion de malades qui fait des complications graves ou qui décèdent de la maladie est extrêmement faible. Mais les proportions, elles ont un véritable problème. C'est que la proportion, quand c'est votre papa qui décède, ou votre maman, ou votre grand-père, eh ben, c'est plus de la proportion, c'est 100%. Si c'est votre papa ou si c'est votre grand-père, c'est 100%. C'est la même chose si c'est votre maman ou votre grand-maman, ou alors même pire, ce qui pourrait arriver, votre fils ou votre fille. Donc ça veut dire qu'il faut quand même être bien conscient, et je crois que c'est pour cette raison-là que les décisions sont tellement compliquées pour le politique, parce qu'on sait maintenant qu'il y a vraiment une pesée d'intérêts à faire entre le sanitaire, l'économique et le social. C'est la beauté de la mission que nous a confiée Emmanuel Macron, c'est vraiment de voir tout ceci ensemble. On le voit aujourd'hui, tout le monde est exposé, on sait, Alain Berset va faire des déclarations aujourd'hui. La pesée entre le sanitaire, alors c'est toujours facile, le sanitaire, on savait qu'il fallait confiner, on savait au mois de mars, il n'y avait aucune autre solution, parce qu'on ne savait pas à quelle hauteur cette vague allait monter, ni combien de temps elle allait durer, même si on avait déjà des données d'autres pays. On avait eu la chance d'avoir ces données à l'avance qui nous aident à nous préparer, on le raconte d'ailleurs dans ce livre, mais on ne savait pas jusqu'où on pouvait aller. Alors on a monté une digue, si vous voulez, pour protéger l'hôpital et le système de santé. Ça a magnifiquement marché. Certains nous ont dit après, vous avez monté une digue trop haute. Je vous rappelle que quand la digue a quelques centimètres de trop bas, on se fait inonder, donc c'est pas facile de choisir à l'avance, puisqu'on a toujours 2 à 3 semaines de retard sur l'épidémie quand on monte en puissance avec la défense, si vous voulez, la défense. Et donc, voilà, et on se retrouve maintenant, et là, ça a bien passé, et puis maintenant, on se retrouve devant un petit peu la même situation. Et vous avez raison, c'est toujours une pesée d'intérêt, et la pesée d'intérêt, maintenant, elle doit se faire sur une distance. On savait qu'il y aurait certainement une deuxième vague, on ne savait pas à quelle vitesse elle allait arriver, avec quelle puissance. Maintenant, elle est là, et on la sent bien. On, on, on peut dire que ce virus ne va pas disparaître, donc on sait qu'on va devoir vivre avec ce virus jusqu'à ce qu'on ait une immunité, on appelle de groupe, suffisante pour éviter que le virus se propage, et donc il va falloir tenir comme cela, en étant juste envers la santé, malade Covid ou non Covid, en étant juste envers l'économie, et en étant juste avec le social, et en particulier avec nos jeunes, qui évidemment vivent une période assez particulière, puisque certains n'ont pas pu faire leur apprentissage, puisque, etc. Donc c'est une situation qui est extrêmement complexe. On aimerait bien, Suzette Sandeau avait à quelque part raison en disant « mais vous faites peur à tout le monde ». Je crois qu'on ne peut pas non plus cacher tout à tout le monde. Ce serait faux, ce ne serait pas honnête de le faire. Et donc je crois qu'il faut qu'on soit avant tout extrêmement honnête et qu'on explique que humblement on apprend, on continue à apprendre et que ma foi, le mieux les gens nous comprendront, le mieux tout le monde se comprendra, le mieux on agira contre cette situation qui est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc on ne peut pas prétendre avoir déjà vécu cette situation. Donc c'est normal que de temps en temps on se trompe un peu ou alors qu'on revoie certaines des recommandations à la baisse ou à la hausse en fonction de la situation.
Il y a peut-être aussi quelque chose qui a été un choc pour nous. C'est que moi, mes grands-parents me parlaient de la grippe espagnole. Ils l'avaient vécu. Hein. Je suis assez vieux pour avoir des grands-parents qui ont connu la grippe espagnole. Donc il y avait dans cette mémoire-là une grosse épidémie. Il y avait l'idée voilà, que ça pouvait arriver. Ensuite, on a progressé et je pense qu'honnêtement, on est tous arrivés à un moment donné, on s'est dit, il ne peut plus rien nous arriver. En Occident, chez les Africains, évidemment, ils sont sous-développés, chez les Asiatiques, ils sont bizarres, ils ne sont pas comme nous. Mais là, ici, en plus, en Suisse, le pays des banques, le pays des hôpitaux formidables, le pays des professeurs formidables comme vous, c'est bon, ce n'est pas une petite épidémie qui va nous toucher. Et là, une fois de plus, un peu effrayé, on s'est dit, mais non, ça a l'air quand même sérieux. Puis surtout, alors, nos hôpitaux n'ont pas l'air prêts à ça.
Alors, c'est tout à fait juste. Alors, par rapport à on va commencer par la préparation des hôpitaux. La préparation des hôpitaux, telle qu'on l'a vécue à Genève, manœuvre exceptionnelle et degré de préparation exceptionnel. On a été visité par bien du monde, et tout le monde l'a dit, quand Alain Berset a visité l'hôpital, on était en pleine crise, et d'ailleurs on le raconte en deux mots dans le livre, il a dit « bravo, l'hôpital c'est un mammouth, vous lui avez fait faire un saut périlleux arrière ». Et il avait raison, et quand on continue à en parler avec lui, c'est vrai que c'est une des choses qui est les plus importantes. Idéalement, n'est-ce pas, ce qu'on voudrait, c'est d'avoir des hôpitaux élastiques qu'on peut grandir autant qu'on veut, mais évidemment, il faut des soignants, parce que ce qui est important, on dit toujours, on parle du nombre de lits dans un hôpital, oui, mais ce qui est important, c'est les soignants qui s'occupent des patients dans les lits. Idéalement, on voudrait pouvoir admettre tous les malades et puis continuer à vivre tout à fait normalement, mais ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on voudrait continuer à pouvoir que tout fonctionne, et puis qu'on puisse obtenir tous ces malades dans l'institution, à les traiter. Alors, on arrive encore aujourd'hui à gérer tous les malades, on a prévu d'en gérer beaucoup plus, et je crois qu'à Genève et en Suisse, en règle générale, on a beaucoup, beaucoup de chance. Quand je me compare avec mes collègues italiens, qui évidemment, on le raconte aussi dans ce livre, étaient en contact avec nous au début, c'est au fond cette alerte-là qui nous a fait mieux nous préparer. C'est grâce aux collègues chinois qu'on a contactés très tôt, bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires, mais tout de même, on a pu parler avec eux, parce que dans mon équipe, il y avait des médecins chinois, c'était beaucoup plus facile, on raconte aussi un peu. Et aussi parler aux collègues italiens, qu'on a pu anticiper. Hein, en crise, le plus important, c'est d'anticiper, surtout un virus qui arrive, et puis on a toujours 3 semaines de retard sur ce virus, hein, de toute façon. Donc en fait, il faut anticiper. Donc je crois que les hôpitaux suisses en général, les hôpitaux genevois, le CHUV, etc., qui ont été les plus frappés par la crise, les hôpitaux du Tessin ont très très bien fonctionné et évidemment ont profité de l'été pour encore mieux se préparer de manière à bien fonctionner. Maintenant, il y a des tas d'autres endroits qui se sont beaucoup moins bien préparés et il est vrai, on aurait bien voulu être encore mieux préparé, comme toujours. On a vu, il y a des accords entre le public et le privé qui se font tout de suite à Genève et qui se sont faits pendant la première vague, qui sont plus compliqués dans le canton de Vaud. Voilà. Alors, on aimerait bien que ça n'arrive pas, tout ça. N'est-ce pas ? On aimerait que ça, tout roule, tout soit fluide. Il faut faire attention, quand tout est trop fluide, ça cache quelque chose. D'accord ? Donc, il vaut mieux, de temps en temps, se poser les bonnes questions, le plus tôt possible, pour pouvoir corriger ça. Alors maintenant, oui, les hôpitaux, c'est une chose importante. Les EMS, hein, les instituts médico-sociaux, c'est aussi quelque chose de très important. Et ça pose un dilemme encore plus compliqué, parce que finalement, certains de ces EMS, et en France, on a vécu ça de très près, mais en Suisse aussi, on a interdit les visites dans les EMS, et du coup, il y a toujours un risque que ces personnes en EMS finissent par mourir de chagrin, ou mourir parce qu'elles arrêtent de se nourrir, au lieu de finalement mourir d'une infection, oui, qui s'appelle Covid, mais elle pourrait aussi mourir d'autre chose, puisque en général, la durée de séjour moyenne dans ces institutions est de, je crois, 18 mois ou 2 ans. Donc ça veut dire qu'il est attendu que certaines personnes, dans ces endroits-là, décèdent. C'est le cours naturel des choses. Mais évidemment, c'est un petit peu injuste qu'elles décèdent sans qu'on puisse leur donner les soins adéquats et sans qu'on puisse leur donner accès à leurs familles qui viennent et qui s'occupent d'eux. Donc, c'est là où c'est compliqué, je dirais. C'est là où c'est très compliqué. Mais je crois qu'en Suisse, on a quand même encore beaucoup, beaucoup de chance parce qu'on a des systèmes de santé qui tiennent bien, qui sont forts, qui, évidemment, il faut soutenir les personnes qui sont les plus à même. C'est évidemment que les soignants font un travail extraordinaire. C'est évident qu'ils sont fatigués. C'est évident que quand ils voient arriver une deuxième vague, ils se disent « Bon Dieu, ça recommence !» Et donc, voilà, il faut retrouver de la motivation. Mais on est quand même extrêmement bien équipés. Et on a des réserves qu'on trouve, parfois on ne sait même pas où, mais qu'on trouve. Alors la réorganisation, c'est quelque chose de passionnant, parce qu'en fait, c'est un changement dans la chaîne de commandement. C'est-à-dire que d'habitude, quand on commande un crayon dans un hôpital public, eh bien moi, en tant que chef de service, quand quelqu'un commande un crayon, il y a 4-5 personnes qui ont signé, je la fais simple, je vais l'agir un peu, hein. Ça peut être 3 gommes, hein, mais il y a plusieurs personnes qui signent et ça prend du temps et je reçois un message. Là, en situation de changement de la chaîne de commande, il y a quelque chose qui est demandé, ça arrive immédiatement et on montre qu'on arrive à changer le système, à transformer le système dans un système qui peut répondre à la crise. Est-ce que ça pourrait se faire tout le temps, toute l'année? C'est une autre question. Mais voilà, donc la transformation à la fois du système et du comportement, parce que le comportement change, elle est fondamentale pour la gestion de crise.
Est-ce que ça ne serait pas l'occasion de revaloriser certaines professions de la santé? Je pense aux aides infirmières, par exemple, dont on sait qu'elles ne sont pas très très bien payées pour beaucoup de travail. On s'est rendu compte pendant la première vague que les petits métiers, vous savez, ces métiers dont on disait, bon, ma foi, c'est pas être balayeur, livrer des livres, c'est pas très valorisant. Puis là, tout à coup, il n'y avait plus qu'eux. On avait besoin d'eux, c'était notre seul lien. Est-ce que le système de la santé, est-ce que les pontes comme vous ne devraient pas en profiter pour dire il faudrait peut-être qu'on revoie un petit peu ça?
Alors évidemment, c'est des choses qu'on dit. D'ailleurs, on le raconte dans le livre parce que vous parlez des nettoyeurs. Aujourd'hui, on les appelle les techniciens de surface. Je suis très ami avec certains. Et d'ailleurs, on parle de Giovanni dans le livre, qui est un véritable ami. Et d'habitude, il est de Naples, lui. Hein. Il est de Naples, mais il vit à Genève depuis longtemps. Je raconte trop du livre, là, mais peu importe. Avec lui, on parle toujours de football. Quand on arrive dans l'hôpital, on discute, on parle des transferts, à l'époque des transferts. Et voilà. Mais à l'époque, durant le Covid, on parlait que du Covid.